Béni soit Dieu. Souvent, on ne se rend pas compte de ce que ça a comporté. Nous, on est assis commodément sur une chaise ou en tous les cas dans de bonnes conditions, habillés, couverts. Le Seigneur était mis à nu. Il avait pris des coups, des heures suspendues, ses mains percées, ses pieds percés, et on l'entend pas se plaindre. Quel exemple. Mais aussi, quelle responsabilité pour nous tous de garder toujours dans notre cœur le prix qui a été payé. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu seulement pour dire qu'il fallait que les hommes s'approchent de Dieu. Non. À un moment, on lui dira de montrer sa gloire, de montrer sa splendeur. Et le Seigneur lui dira de détruire le temple et que lui, il allait le reconstruire en 3 jours. J'imagine que les entreprises de travaux publics, ils ont dû se dire, waouh, où il a une myriade d'ouvriers, où il a trouvé moyen que nous ne connaissons pas. Ils avaient mis tellement d'années, des décennies pour construire le temple, et Jésus leur dit, détruisez-le, et en 3 jours, je le reconstruirai. De quel temple Jésus parlait ? Il parlait de ce que lui, il avait prévu de vivre, de ce que lui, il avait accepté de vivre, pour que finalement, quelque chose d'autre ressorte. Et il dira, je bâtirai mon église. Amen. Alors, je crois qu'il est important pour nous ce matin de réaliser qu'est-ce qu'est la véritable église. Parce que parfois, nous pouvons être tentés de croire que c'est une construction et qui est née du fruit de la volonté des hommes, en se disant, et si on faisait l'église ? Vous savez, parfois on peut avoir des idées. J'aimerais lire avec vous différents textes de la parole de Dieu qui encore ce matin vont nous encourager à regarder et comprendre ce qu'est l'église. Pour que finalement nous puissions nous inscrire dans l'œuvre de Christ. Jésus a dit, je bâtirai où ? Alors, dites à votre voisin, c'est l'heure de te réveiller. Ce n'est pas le moment de dormir. Cet après-midi, après le repas, si tu veux, tu as le droit à la sieste. Jésus a dit, je bâtirai mon église. On ne se rend pas compte de quelle était la vision de Christ par rapport à ces mots et la volonté du Seigneur de faire quelque chose d'incroyable. Pour certains, ils considèrent l'Église comme un énorme bassin appelé Église universelle, histoire de faire un peu plus pompeux, dans laquelle tout le monde peut se glisser et faire son petit monde, dans laquelle chacun peut marquer son territoire, établir ses propres règles et ses propres principes. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Ce matin, j'espère que vous avez mis des bonnes chaussures aux pieds, parce que nous allons marcher pas mal dans la parole de Dieu et nous allons faire l'Ancien, le Nouveau Testament et nous verrons quelle était la vision de Dieu et de quelle manière le Seigneur est venu finalement établir, bâtir, construire, chérir son Église. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Il est question pour nous d'être édifiés, construits, bâtis, posés sur le fondement de ce qui nous a été transmis par les apôtres et par les prophètes. Eux ont reçu de la part du Seigneur des instructions claires, nettes et précises. Nous n'avons plus rien à rajouter. Dieu a établi les choses d'une manière qui traverse les siècles. Est-ce qu'il a tenu compte des normes? Oui. Est-ce qu'il a tenu compte des lois? Oui. Est-ce qu'il a tenu compte des générations? Oui. Est-ce qu'il a tenu compte aussi de l'évolution de la pensée des hommes? Oui, parce que les hommes, on peut croire ce qu'on veut, mais ils n'évoluent pas. La Bible, elle reste toujours, toujours à la page, parce que le cœur de l'homme demeure toujours le même. Et on doit être conscient que finalement, nous avons eu cette grâce d'avoir été édifiés. Il parle sur les apôtres. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Amen. C'est Paul qui dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le fondement, il est là. Tout ce qui sort de ce fondement n'est pas l'Église, et peut-être un club. Quelque chose qui va tenir un peu de temps. Et après, il va disparaître. Pour certains, aujourd'hui, l'Église est quelque chose qui doit finalement rassembler des foules, voire même prévoir des moments de spectacle. Pour les prophètes, qu'est-ce qui est ? Quel est le projet de Dieu ? Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, moi voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Amen. Finalement, ce que Dieu nous propose, c'est un refuge. C'est quelque chose que le monde, le temps, les épreuves, les difficultés ne feront jamais bouger d'un iota, d'un millimètre. Il y a plein de choses qui bougent aujourd'hui. Ça bouge dans tous les sens, économiquement, socialement, politiquement, tout bouge. Le monde bouge aussi, n'est-ce pas ? On entend des tremblements de terre, on entend de ceci, on entend de cela, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu a finalement placé une pierre solidement posée. Christ, celui qui a été éprouvé, de même, cette œuvre est éprouvée pour en assurer la conformité. Est-ce que Christ est conforme ? La parole de Dieu nous dit que celui qui confesse le nom de Jésus sera... Amen. C'est un fondement. Ce n'est pas discutable. Et celui qui ne croit pas dans le Fils de Dieu, il est perdu. Il n'y a pas de demi-mesure éprouvée pour en révéler quel est son fondement. Luc chapitre 6, versets 47 à 49. « Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. » Et là, c'est Jésus lui-même qui parle. « Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est roué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est roué contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. La parole de Dieu nous dit qu'il a été question de creuser, d'aller en profondeur. On est habitué à que les choses aillent vite dans notre vie. On aime bien ce qui va vite. On pense, on réfléchit, on agit. Et des fois, on n'a pas forcément bien réfléchi. On a certes agi, mais est-ce qu'on agit dans le bon sens ? Et la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu et Dieu lui-même a agi tranquillement pour préparer les choses et pour creuser profondément. Si tu veux une vie spirituelle fondée sur Christ, tu dois laisser Dieu œuvrer dans ta vie. Ce n'est pas juste question de dire « Ah, j'ai accepté Jésus ». C'est le début des travaux. C'est le premier coup de pioche. Il faut après prendre le temps de laisser le Seigneur creuser en profondeur. Et là, il va en remonter des choses. Hein. Vous savez, quand on creuse, on trouve tout ce qu'on a caché en dessous. Hein. Même ce que peut-être les autres ont caché dans notre vie. Ce qui s'est passé dans les générations passées, les problèmes qui ont été créés peut-être au sein de nos familles et dont on n'était pas conscient. Et le Seigneur permet finalement que ces choses elles ressortent parce que lui, il veut bâtir sur un fondement. Il veut quelque chose de solide pour toi. Il ne veut pas que ta maison, que ta vie spirituelle soit ébranlée par le moindre coup de vent. Vous connaissez l'histoire des trois petits cochons ? Je ne vais pas vous la raconter. Mais vous comprenez bien le sens. Il y en a un seul qui finalement il va pouvoir se dire « J'ai quelque chose qui tient la route. Est-ce que ta vie spirituelle tient la route ?» si tu peux le dire, c'est qu'à un moment ou à un autre, tu as été éprouvé. Et que finalement, tu t'es rendu compte que merci Seigneur pour le temps que tu as pris pour bâtir dans ma vie. Seigneur, je ne veux plus être de ceux qui font des travaux vite fait, bien fait, on cache la misère. On donne une façade, on donne une image et après quoi, quand on commence à gratter un peu en dessous, ça tombe de tous les côtés. Vous savez, quand on fait les choses et on calfeutre un peu. Un jour, mon fils, il était petit, il rentre à la salle de bain, on habitait Besançon, et il pensait que c'était solide, il s'accroche au lavabo, et il m'arrache le lavabo et le mur. J'étais en déplacement, ma femme, elle m'appelle, elle me dit, écoute, le petit, il a décroché le lavabo. J'ai dit, bon, écoute, mets un caillou en dessous, quand je peux, j'arrive. Et à un moment, elle me dit, tu sais, il faut qu'on trouve une solution, on ne peut pas rester comme ça. Ok, d'accord, je commence, je touche le lavabo et il y a le reste du carrelage du mur qui tombe. Pourquoi ? Parce que ceux qui avaient fait les travaux avant, ils avaient collé ça, mais ce n'était pas du beau travail. Alors j'appelle un frère qui est carrelage, je lui dis, écoute, voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire ? Ah ben, il faut tout détruire et tout recommencer, tout casser et tout refaire. Je lui dis, ben, tu m'as aidé aujourd'hui. Ça a pris du temps. Il a fallu accepter d'enlever les gravats. Il a fallu accepter d'aller en profondeur. Il a fallu accepter de voir là où il y avait des défauts et finalement de réparer, de transformer, de changer, de modifier, de mieux faire. Il y a peut-être des choses dans notre vie qu'on a fait, mais on n'a pas bien fait. Et quand c'est le moment où Dieu nous éprouve, ben là finalement on se rend compte, Seigneur, j'aurais dû mettre un tout petit peu plus d'attention sur ça. Alors Seigneur, ok, aide-moi. Aide-moi à refaire cette partie de ma vie, Seigneur. Aide-moi à changer, Seigneur, pour que je ne sois plus dans les mêmes situations, dans les mêmes erreurs. La question de la volonté de Dieu, c'est d'éprouver pour en révéler les qualités. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 14. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. On peut parfois donner une image. On peut parfois vouloir donner une image. On veut parfois montrer aux autres quelque chose qui peut faire croire que. Mais le fond, nous on le connaît. Et le Seigneur aussi. On peut être tenté par dire, Seigneur, mais si je mettais juste, vous savez, ces objets plaqués or. Hein ? On se dit, waouh, t'as vu le bijou que j'ai là ? C'est de l'or. Non, non, c'est plaqué. C'est pas la même chose. Parce que dès que tu grattes un peu la peinture, le reste ressort. Que se passe-t-il quand nous sommes égratignés dans notre vie ? Quand la vie, finalement, elle nous fait passer par des chocs. Ce qui est antérieur se voit, ressort. Hein, tant que tout va bien, tout va bien. Mais quand il y a des difficultés, c'est là que finalement le caractère ressort. La parole de Dieu nous dit que dans la volonté du Seigneur, c'est que nous puissions bâtir avec des choses précieuses. Qu'est-ce que représente l'or pour vous ? C'est quoi l'or ? Pasteur Villa. Amen. Alléluia. Entendez cette bonne parole. Et les pierres précieuses, c'est quoi ? C'est nous. Vous savez, une pierre précieuse, combien de temps elle prend à être faite ? Par quel processus elle doit passer ? Et souvent, elle est cachée en profondeur. Elle vit des pressions, des compressions. Pour qu'une métamorphose se fait, chacun de nous, nous avons des métamorphoses à vivre dans notre vie. On doit accepter que le Seigneur nous mette par moments dans des moments où on se dit, Seigneur, c'est sombre, je vis un moment sombre, Seigneur, je vis une forme d'oppression. Seigneur, je passe par des moments difficiles, mais c'est là que Dieu, finalement, veut transformer ta vie pour que tu sois une pierre précieuse. Seigneur, il ne va pas te passer un petit coup de peinture. C'est, avant, j'étais perdu, maintenant, je suis passé à l'église, j'ai été sauvé. Un petit coup de peinture et c'est beau, tout va bien. Alléluia, je vis comme avant, mais j'ai le logo, j'ai l'étiquette, j'ai les petites étoiles sur les épaules. Ou voir, j'ai fait telle ou telle ou telle formation, donc à partir de là, je sais. Non, ce n'est pas ça. Tu peux connaître même la Bible par cœur et finalement ne pas vivre un seul verset de la parole de Dieu. Alors il est question pour nous finalement de comprendre. Jésus dira, tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans le paume de ton Dieu. Ésaïe chapitre 62, verset 3. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Zacharie, chapitre 2, verset 12, dira « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu, mon frère, ma sœur. Toi, tu te dis « Oui, mais moi, je suis dans l'ombre, dans l'église, on ne m'entend pas, on ne me voit pas. » Mais tu peux ne pas être entendu, ne pas vu par les hommes, mais est-ce que Dieu t'entend et te voit ? Parce que l'important, il est là, hein. Ce n'est pas important qu'on voit, parce que vous savez, on pourrait tomber dans une forme de voyeurisme. Allons à l'église voir ce qu'ils font les autres. Et peut-être qu'à la fin du culte, on commence à dire, t'as vu un tel comment il était habillé ? Oh là 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 là. Et un tel, t'as vu, elle avait un chapeau magnifique. Un jour, je me suis trouvé dans une visite et la personne me dit, pasteur, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et l'autre, hey, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Je lui dis, t'as entendu la parole ? Non, mais je vais la réécouter. Je dis, mais t'es venu pourquoi à l'église ? Si tu viens juste aiguiser ton sens de la critique et de la mode, reste chez toi. Parce que finalement, tu ne fais pas partie de l'église. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu vois, c'est peut-être la faute des uns et des autres. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur. Hein. Que celui qui est parfait lève le premier à la main. Moi, je mets dans la poche. Hein. Non ? Donc, que Dieu nous aide. Nous sommes tous là pour vivre un changement. Et ce changement, parfois, Dieu se sert des uns et des autres pour le produire. Hein ? Dieu aiguise le fer avec le fer. Oui, mais Seigneur, je ne voyais pas les choses comme ça. La parole de Dieu nous dit qu'en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors ce texte, il est super, parce qu'on est passé des pierres précieuses aux pierres vivantes pour devenir victimes spirituelles du sacrifice. Qu'on le veuille ou pas, une pierre précieuse, quand elle est trouvée, c'est brut. Pour que finalement, elle trouve et elle prenne toute la valeur, elle doit accepter d'être taillée. Est-ce qu'il y a-t-il des choses dans notre vie qui ont besoin d'être enlevées ? Est-ce qu'on accepte que le Seigneur nous dit, voilà, là, tu vas devoir révéler cette facette-là de ta vie. Tu vois là, il va falloir couper. Ouais, mais Seigneur, tu sais, j'ai mis tellement de temps à avoir cette partie-là, mais elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Tu ne dois pas être un diamant selon ton regard, mais un diamant selon le regard de Dieu. Ce que toi, tu considères bon, pour lui, ce n'est pas bon. L'apôtre Paul dira, j'ai considéré toutes ces choses, et il parle de choses quand même assez importantes, non ? Il a grandi au pied de Gamaliel, il connaissait la loi, il était même fervent au point de mettre tous ceux qui étaient contre la loi en prison. Et il dit, ben, j'ai considéré toutes ces choses comme de la poubelle, finalement pour recevoir la révélation de Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à considérer certaines choses comme une poubelle dans notre vie, comme un poids, pour être finalement ces pierres vivantes ? Quelle différence y a entre une pierre vivante et une pierre morte ? Ça existe des pierres mortes ? Qu'est-ce qui se passe avec une pierre morte ? Allez, courage. Revoyez vos cours de physique, chimie. Elle s'effrite et ne tient pas la route. Elle ne sert à rien. La parole de Dieu parle de nous comme des pierres vivantes. Nous avons à remplir un service. Nous avons à faire partie intégrante de l'œuvre de Dieu. Alors, je voudrais vous poser la question, comment vous voyez-vous aujourd'hui ? Pierre vivante ou pierre morte ? Et comment vous voyez-vous dans 10 ans ? Un jour, quelqu'un m'a dit, tu te vois comment dans 10 ans ? J'ai répondu, j'espère avoir autant de cheveux que j'en ai aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai dû apprendre à regarder plus loin. Ce n'était pas mon truc. Quand ma femme, elle me parlait de projets à 2 mois de distance, je disais, dans 2 mois ? Laisse tomber, on en parlera dans 2 mois. C'était au jour au jour. Mais après, le Seigneur m'a changé en tout ça. J'ai dû comprendre que la volonté de Dieu s'accomplit selon la vision de Dieu. Et qu'on ne peut pas marcher au radar. On doit marcher selon la vision de Dieu. Autrement, pas seulement on se plante, mais on plante tous ceux qui nous suivent. Et en tant que serviteur de Dieu, on se doit d'être dans la vision de Dieu. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile, hein, croyez-moi. Hein. Mais combien c'est important. Faute de vision, le peuple... Alors, si c'est la responsabilité du pasteur, mais je dirais que c'est la responsabilité de l'Église tout entière, n'est-ce pas ? Parce que si tout reposait sur les épaules d'un seul homme, je peux vous dire que non, c'est pas comme ça que la parole de Dieu nous parle de l'Église. Alors, 1 Pierre chapitre 4, verset 11, « Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » S'édifier pour et dans le Seigneur. Jude, chapitre, verset 17 à 20. Il n'y a pas de chapitre. Jude, verset 17 à 20. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'empiété selon leur convoitise. Les voilà, les fauteurs de division. Les êtres charnels, dépourvus de l'esprit. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Est-ce que ce texte, est-ce qu'il nous donne une vision de l'avenir ? Ça a été écrit par qui ? Jude. Est-ce qu'elle est pour nous, cette parole ? Ah, il fallait une sacrée vision quand même pour voir aussi loin, non ? Toute la parole, elle décrit la vision de Dieu. Et si nous voulons être des êtres, des hommes et des femmes spirituels, nous devons marcher selon la vision de Dieu. Autrement, finalement, c'est l'esprit du monde qui s'est introduit dans notre vie. Si l'Église, elle correspond aux critères du monde, elle ne peut pas correspondre aux critères de Dieu. Car ce qui est ami du monde est ennemi de Dieu, dit la parole de Dieu. C'est clair. Mais celui qui veut finalement bâtir sa vie en Christ, il est question de s'édifier dans le Seigneur pour être finalement un temple saint dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ah ! Seigneur, avec tous mes défauts, puis-je être saint. Mon frère, ma sœur, si tu es saint, tu es sanctifié par Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu es bon, tu es beau, tu es gentil. Parce que même si ça, c'est des qualités, si Christ n'habite pas dans ton cœur, tu es perdu. Tu seras quelqu'un qui ne connaîtra pas la vie éternelle avec Christ. Donc finalement, il est question pour nous de dire, Seigneur, sanctifie-moi davantage. Vous savez, la parole de Dieu nous rappelle en 1 Pierre chapitre 4, verset 17, que le jugement de Dieu commence par sa maison. Quand on s'apprête à acheter une maison, généralement on demande qu'une expertise soit faite. Non ? Pour vérifier s'il n'y a pas de vis caché. On est là, on vérifie les portes, les fenêtres, on vérifie tout ce qui est, parce qu'on se dit, si on ne le voit pas maintenant, après il faudra payer pour refaire. Parfois, il y a des gens, ils ont investi tout, mais très mal investi. Et au contrôle, la maison ne passe pas. Il m'est arrivé de rencontrer une personne qui avait demandé un prêt pour bâtir sa maison. Et il s'était débrouillé pour faire ça avec des amis, des copains, de manière très amatoriale. Et le jour où le contrôle est passé, la maison, en effet, elle n'était pas aux normes. Et on lui a dit, monsieur, la maison, elle va être détruite parce qu'elle est dangereuse. Cet homme, il s'est retrouvé à devoir continuer de payer son crédit, payer son loyer. Il a tout perdu. On peut parfois, dans notre vie, penser édifier finalement une vie spirituelle selon l'image que nous, on se donne. Et penser que finalement, le Seigneur, puisqu'il voit, il verra quatre murs et un toit, il va se dire, bon, c'est la maison, c'est bon, c'est le temple, ça passe. Mais non, ça ne passera pas. Parce que si celui qui habite la maison n'est pas Jésus-Christ, tu ne passeras pas. Si celui qui règne dans ton cœur n'est pas Jésus-Christ, tu ne passeras pas. Si celui qui finalement dirige ta vie et conduit ta vie, ce n'est pas Jésus-Christ, mais tu ne passeras. Amen. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui se tient à la porte. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de place pour. Apocalypse chapitre 22, versets 12 et 16. Voici, et l'Église dit, je viens bientôt et j'apporte avec moi rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, l'idolâtre et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. À qui Jésus atteste ces choses ? On pourrait se dire, une annonce pareille, faite au monde. Mais en réalité, c'est à l'Église qu'il l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui se sont introduites dans l'Église. Quand il parle des chiens, il ne pense pas à l'animal à quatre pattes. Parce que je peux vous dire, il y a des petits chiens qui aiment beaucoup venir à l'Église. Moi, j'ai mon petit chien, dès qu'elle voit qu'elle descend dans le bureau, elle veut venir. Elle aime bien. Elle se met dans le hall, elle regarde, dès que quelqu'un arrive dans l'accueil, hop, elle vient m'appeler. Et elle est au service. Service-accueil. Mais quand la parole de Dieu parle des chiens, il parle de ceux qui sont retournés à leur vomi. On peut venir à l'église et finalement revenir à notre ancienne vie et continuer d'occuper une place, voire même une place de responsabilité, mais en réalité, le fond du cœur n'a pas changé. Parce qu'on continue de se nourrir des choses anciennes. On vit dans du vieux. On vit dans les situations du passé au lieu de regarder en avant. La véritable Église est la maison de Dieu. Deux références pour terminer. La première est en 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Qu'est-ce qu'est l'Église ? Si on faisait un constat ce matin, et que finalement, on se disait, Seigneur, je veux être là-dedans, je veux être là, pas ailleurs. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, Seigneur, s'il te plaît, tu me le révèles. Et surtout, change-moi, Seigneur. Non ? Qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur fera ? Si tu demandes à Dieu de changer ton cœur, qu'est-ce que Dieu fera ? Si tu demandes au Seigneur de changer ton caractère, qu'est-ce que le Seigneur fera ? Vous savez, parfois, pour changer certaines choses, il faut enlever ce qui ne va pas. Tu vas entendre des petits coups de marteau. Tu vas entendre qu'il y a des choses qui bougent dans ta vie parce que Dieu est à l'œuvre. Tu lui as demandé et Dieu le fait. Amen. Donc, ne sois pas étonné si demain, ça bouge. Dis, Seigneur, aussi rapide que ça, je n'ai même pas terminé de dire Amen. Mais il attendait ta prière. Et il attendait, tu donnes le feu vert. Les devis étaient déjà faits. Parce qu'il connaît le besoin de ton cœur. Il connaît le besoin de ton âme. Et si Dieu ne perde pas de temps, c'est parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Il revient bientôt. Et la question de vivre la vie d'église, ce n'est pas juste choisir un lieu géographique. Non, c'est d'être là où Dieu nous veut. Moi, quand les personnes viennent me voir pour la première fois et disent, pasteur, voilà, on est là. D'abord, faites une chose. Venez, faites-vous du bien. Et le jour où vous sentez que vous êtes à votre place, et on discute du reste. Parce que finalement, on doit être là où Dieu nous veut. On peut être partout, vous savez. Et il y en a qui sont partout. Mais finalement, nulle part. Vous leur demandez, ils ont une à deux à trois réunions par jour, peut-être. Ils suivent les réseaux, ils suivent ceci, ils vont à l'église à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Ils sont partout. Mais finalement, quand est-ce que tu vis ce que la Bible, elle te dit ? Quand est-ce que finalement tu es au service du Seigneur pour édifier, construire, bâtir l'église que Christ veut ? Pour l'instant, tu es un consommateur. Non ? Tu fais de la boulimie spirituelle. Et à force, tu ne pourras plus bouger. Pourquoi ? Parce que finalement, tu t'es encerclé de beaucoup de choses, mais tu n'as jamais rien mis en pratique. Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 13. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi. De l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Quand vous lisez la lettre aux églises dans l'Apocalypse, on pourrait se dire, mais il écrit à différentes églises. Certes, c'est une des choses, mais en même temps, il écrit à l'Église dans différentes périodes de la vie de l'Église. Si vous regardez bien, en effet, la parole de Dieu décrit les phases que l'Église, elle vit. Et aujourd'hui, cette Église, qui est l'Église du monde, elle se détourne de la vérité pour suivre les fables. Et Dieu lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Mais elle dit aussi à l'Église qui résiste, à l'Église qui se tient dans la parole, que lui, il prendra soin de cette Église-là. Parce que c'est celle qui correspond à la pensée, à la vision et au regard de Dieu. Aujourd'hui, l'Église peut être bâtie de différentes manières. On peut mettre des murs, des fenêtres comme ici. Mais si vous vous trouvez en pleine combrousse, ça pourrait être des tôles. Qu'est-ce qui est important ? Les murs ? Qu'est-ce qui attire les cœurs ? La beauté du bâtiment ? Non, c'est la présence de Dieu. Moi, je suis convaincu d'une chose, et si vous pensez le contraire, tant pis pour vous. C'est que si aujourd'hui nous voyons des âmes venir, c'est parce que Christ les attire. Ce n'est pas le parking, Ce n'est pas la couleur des murs, l'aspect et encore moins le pasteur. Ça n'a rien à voir tout ça. Ça, ce n'est que des options, de la déco, des outils. Ce qui attire le cœur, c'est la présence de Dieu. Parce que j'ai vu des églises énormes où vous pouviez mettre 5000 personnes, mais vides de l'Esprit de Dieu. Ça ne sert à rien. Il y a du spectacle. Il y a de la musique, en veux-tu, en voilà. Il y a des capacités, des talents qui sont là, ils expriment leurs capacités, leurs talents, mais c'est ça qui anime tout. C'est finalement le désir d'avoir de la gloire, de la reconnaissance humaine. Mais ce n'est pas ça qui compte. Moi, je n'ai jamais vu et au lit dans la parole de Dieu que Jean-Baptiste se tenait avec une guitare électrique dans le désert. Est-ce que Jean-Baptiste chantait? Je crois que oui. Au fond de son cœur, il louait le Seigneur. Mais ce qui était plus important pour Jean-Baptiste, c'est de prêcher dans le désert. Qu'est-ce qui est important pour l'Église? Un jour, quelqu'un m'a dit, « Pasteur, quelle est votre vision pour l'Église ?» Je lui ai répondu, « Tu n'en as rien à faire de ma vision pour l'Église, parce que ce n'est pas ma vision qui est importante pour l'Église, mais c'est la vision de Dieu. » Ça ne lui a pas plu. Dommage. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir plein de visions, et alors ça veut dire que l'Église, elle change à la base de la vision du pasteur qui arrive. Alors, excusez-moi, si tous les X années, l'Église, elle se trouve à changer, à avoir ce bonheur de connaître différents ministères, hein, et à chaque fois, elle change de vision, ben à la fin, on ne sait plus qui on est, non? Mais quelle est la vision de Dieu pour l'Église de Arles? Dites-moi. À votre vie, c'est quoi la vision de Dieu pour l'Église de Arles? Ça, c'est commun à tous. Quelle est la vision de Dieu pour l'Église de Arles? Ça fait partie des compétences de base. Ok, très bien. Mais ça, c'est le projet de Dieu pour toutes les églises. Accomplir ses promesses et les vivre. Très bien. Quoi encore? Quelle est la vision de Dieu pour l'Église? Amen. Qu'elle se sanctifie, disait notre frère. C'est quoi encore la vision de Dieu pour l'Église de Arles? Marcher dans sa volonté, quoi encore? C'est chercher... Oui, très bien. Alors, si je dois chercher la face de Dieu, ça veut dire que je dois me détourner de tout ce qui n'est pas Dieu. Et ça veut dire que je ne dois pas chercher ce qui se passe à droite, à gauche, mais de dire, Seigneur, quelle est ta vision pour l'Église de Arles? On ne va pas faire du copier-coller. Ce n'est pas parce qu'en Corée, ils font une chose, qu'à Arles, ça marche. Non? Ce n'est pas parce qu'à tel endroit, ils ont fait une chose et on va tous faire la même chose. J'entendais dernièrement une information, quelqu'un m'a partagé cette information. Dans un lieu, ils se sont retrouvés des étudiants, ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à prier, à louer le Seigneur. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit. Et le jour d'après, ils se sont retrouvés, ils ont continué à louer le Seigneur, et maintenant ils sont des milliers. Il y a des milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une action de Dieu. Alors, je ne vais pas dire demain matin, groupe de chant, vous venez, on va faire la même chose, parce que Dieu ne fait pas les choses par la volonté des hommes. Mais Dieu fait les choses qui sont de sa volonté quand les hommes rentrent dans sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour l'Église de Arles? C'est que nous soyons cette Église que Christ veut au retour, que nous soyons prêts, debout, à servir le Seigneur, coûte que coûte. On va prier, on va fermer nos yeux. Seigneur, encore ce matin, ta parole nous exhorte et nous invite, Seigneur, à non pas être une dénomination, à ne pas être une structure humaine, mais Seigneur, être cette structure spirituelle qui, certes, elle a besoin aussi de structure pour fonctionner, mais Seigneur, que la structure soit au service de la vision. Seigneur, nous voulons être au service du roi des rois et du Dieu très haut. Garde-nous de toute attention et de toute volonté humaine, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, un jour ou un autre, penser, poser un fondement qui va être dans les siècles et qui vont permettre de parler de nous d'une manière positive. Seigneur, on n'est pas là pour nous, on est là pour toi. Seigneur, nous te prions encore que l'Église, Seigneur, dont nous faisons partie, soit l'Église que toi tu veux, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de nous écarter de ta vision de l'Église que tu bâtis. Seigneur, là où il y a des malfaçons, viens corriger, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous soyons prêts, dans l'humilité, Seigneur. Seigneur, prêts, Seigneur, aussi à nous remettre en question et à marcher dans la sanctification pour que, Seigneur, cette Église que toi tu veux et que tu, Seigneur, tu as choisi pour être ton épouse, soit prête. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu accomplis dans le cœur de chacun, encore ce matin. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui déjà, Seigneur, t'ont donné leur cœur, mais je veux te prier aussi pour ceux qui ont besoin de faire ce pas ce matin, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas faire partie d'une structure, mais nous voulons faire partie du corps de Christ. Seigneur, merci encore pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce, Père. Nous te louons et nous te bénissons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.